Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Morren.
Salut à tous.
De Pixel.
J'ai perdu mes clés de maison, alors si vous les retrouvez, vous les envoyez à l'adresse 13 rue Tarkov. Merci beaucoup.
De Dwayne.
Hello.
Et d'ATH.
Salut à tous.
Toujours pas de clé pour Escape from Tarkov, Pixel, hein. Je suis désolé. J'ai rien reçu.
Ah, nos auditeurs sont radins. Je suis malheureux.
Voilà.
Alors, envoyez-moi des commentaires.
Cliquez,
pouce bleu, s'il vous plaît. Pouce bleu.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Lost Fear. On enchaînera ensuite sur Indivisible. Nous évoquerons également le Kickstarter de Ash of Gods. Nous enchaînerons ensuite sur des nouvelles par rapport à Steam Direct. On évoquera également du changement du côté de la Switch. On enchaînera ensuite sur Hitman, à qui appartient la licence et surtout, qu'est-ce qui va lui arriver. Et enfin, nous terminerons les news par une actualité sur Des Nouveaux et le jeu Rime. Vous savez, ce petit jeu qui est très stylé, mais qui a quand même des gros airs de jeu Ueda, n'est-ce pas? Qui a été craqué en moins d'une semaine. Voilà, voilà. Sans oublier notre jeu du moment, enfin mon jeu du moment en l'occurrence, c'est The Surge.
Non, c'est Dark Souls dans le futur.
Voilà. Donc on va commencer, mon cher Dwayne, avec une news sur le prochain jeu des créateurs d'Ayam Setsuna.
Tout à fait, c'est The Lost Sphere. Donc comme tu l'as dit, créateur d'Ayam Setsuna, Tokyo RPG Factory. Donc ils ont annoncé le jeu, il va arriver en début 2018, donc ça va être sur Switch, PC et PS4. En fait, ça va être basé à peu près sur le même système de combat que Ayam Setsuna. On aura aussi une direction artistique qui est à peu près similaire. On va suivre en fait un jeune garçon qui s'appelle Katana, dont la ville d'origine a disparu tout simplement. Donc ça va démarrer en fait une aventure où il va rencontrer ensuite d'autres membres et partir dans une quête pour sauver le monde.
Quand tu dis que la ville a disparu, c'est pas genre, tu vois, il y a des méchants qui l'ont attaqué, c'est la réellement disparu du monde, en fait.
C'est ça.
Il y a des zones du monde qui sont en train de disparaître, littéralement, auxquelles tu ne peux plus accéder. Le but du jeu, entre guillemets, ça va être de rétablir ces zones-là, quoi, de les faire réapparaître. Et bien évidemment, vous imaginez bien, le héros a le pouvoir de recréer ces zones, etc., quoi.
Bah, un peu comme dans Dark Cloud sur PS2, je sais pas si vous connaissez, sauf que là c'était pas des villes entières, c'était vraiment le village, on va dire, que tu reconstruisais avec, tu mettais par exemple la petite maison du chef, la maison du forgeron, etc. Et t'avais un peu ce système là. Du coup là je me demande en fait comment ça va être dans un jeu où c'est vraiment un monde qui disparaît au fur et à mesure, parce que le concept peut être sympa, mais peut être vite redondant en fait aussi.
Et ça sort quand tout ça?
Pour l'instant début 2018, donc voilà, sur Switch, PC et PS4.
Alors, pour être honnête avec vous, c'est ma news coup de gueule. parce que autant le concept de faire réapparaître des pans du monde, etc., ça peut être chouette, autant le jeu en lui-même... Alors déjà, le système de combat, c'est celui de Chrono Trigger. La direction artistique, tu vois que c'est les mecs qui ont fait Ayam Setsuna, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... En fait, c'est pas tant la direction artistique en elle-même, c'est le rendu graphique, quoi, on va dire, qui a été choisi. C'est-à-dire, ça fait un peu RPG budget old school, pour être gentil. Ce qui m'agace, en fait, avec Square Enix, c'est tout simplement le manque d'ambition du truc, quoi. Je dis pas qu'il faut non plus, tu sais, que ce soit un projet qui a un budget de ouf, etc. Mais on va en parler tout à l'heure avec le Kickstarter d'Ash of Gods. Ben, je sais pas, quand même avec un petit budget, tu peux quand même t'attendre un jeu un minimum ambitieux, enfin d'un point de vue esthétique. J'ai rien contre les jeux de school, mais là pareil, tu reprends les mécaniques de Chrono Trigger, ok, très bien, qu'est-ce que tu ajoutes à la formule? C'est quoi ta spécificité, tu vois? On sait tous que ce studio, il a été créé à la suite du succès de Bravely Default. Bravely Default, je rappelle, c'est un succès auquel s'attendait pas Square Enix. Ils s'en sont rendu compte à cette époque qu'il y avait un public pour les RPG old school, parce que Bravely Default était assez old school dans sa structure et dans ses combats en tour par tour, etc. Mais c'est pas tout de faire des combats en tour par tour. C'est quoi ton identité? Parce que on peut dire ce qu'on veut de Bravely Default, qui était assez old school sur ses mécaniques, etc. Le fait est qu'il a marqué les gens aussi d'un point de vue esthétique. C'est un jeu qui avait une identité visuelle forte. Là, quand je vois Ayam Setsuna... Enfin, ouais, lapsus révélateur, j'allais dire Ayam Setsuna. C'est générique, putain, mais sortez-vous les doigts du cul, quoi. Old school ne veut pas dire RPG sans ambition, quoi. Faites quelque chose. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule.
Le message est passé.
On va passer à la news suivante, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non, c'est bon.
Et je vais vous parler de Indivisible. Alors, Indivisible, je rappelle, c'est un RPG qu'on pourrait résumer comme ceci, à savoir Valkyrie Profile chez les Aztèques. Voilà. C'est fait par l'équipe qui était derrière Skullgirls, il me semble. Et c'est un jeu qui avait marqué à l'époque, parce que c'est un des plus gros financements sur Indiegogo. Je crois qu'ils avaient dépassé les 2 millions de dollars, ce qui est exceptionnel sur Indiegogo. Mm. Et c'est un jeu qui, bonne nouvelle, sortira sur Switch. Parce que je rappelle que Valkyrie Profile, le gameplay, ça consiste quand même à des phases de plateforme, en 2D vues de côté, etc. Je trouve que la console de Nintendo sera tout à fait adaptée pour rendre justice au rendu du jeu, quoi, on va dire.
Exactement, c'est-à-dire qu'en plus, ça faisait un moment que je l'avais pas suivi. Fin 2015, bah, ils avaient fini leur campagne et tout. Et là, ils ont ressorti le trailer. Et il y a pas mal de nouveautés, c'est-à-dire qu'on va avoir en plus un doublage complet, donc avec une grosse équipe, il y a pas mal de gros doubleurs qui vont travailler dessus, enfin des gens qui travaillent pas mal sur de l'animation justement. Il y a aussi le studio Trigger, bon là c'est un peu plus un petit délire qu'ils se sont fait par rapport à la somme qu'ils ont eue, c'est le studio Trigger qui va faire en fait l'opening. Donc studio Trigger c'est ceux qui ont fait Kill la Kill par exemple, et voilà, ouais, c'est vraiment classe du coup. À la fois au niveau de la DA qui claque, enfin pour ceux qui connaissent déjà Skullgirls, ils sont assez forts au niveau de l'animation et de la DA. Bon après, j'avais testé, je me rappelle, c'était encore un peu brouillon au niveau du gameplay, j'avais testé la petite, le petit prototype qu'ils avaient fait fin 2015, mais là ça a vraiment avancé, donc ça va être sympa de voir ce qu'ils peuvent produire quoi.
Bah, ce qui est cool en plus avec le gameplay à la Valkyrie Profile, c'est vraiment le système de combat. C'est-à-dire qu'en fait, dans Valkyrie Profile, chaque personnage est représenté par un bouton de la manette, si tu veux. C'est-à-dire triangle, ça va être le personnage du haut, rond, ça va être le personnage à droite, etc. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que tu appuies sur un bouton, t'as le personnage assigné à ce bouton qui fait une action, en fait. Et c'est comme ça, du coup, que tu fais des combos. C'est-à-dire que, genre, il y a un personnage, il va projeter l'ennemi en l'air, et puis quand t'appuies sur rond, t'as l'autre... qui va, je sais pas, lancer une boule de feu sur l'ennemi qui est en l'air, puis l'autre qui va briser la garde de notre ennemi, bref. C'est vraiment un système qui est super dynamique, et c'est pour ça que j'avais adoré à l'époque. Et du coup, le retrouver dans un jeu comme ça, ma foi, c'est pas de refus. Et surtout que, à côté de ça, malgré tout, même s'il a ce côté rétro, je trouve que, contrairement au jeu qu'on a précédé, dont on a parlé précédemment, bah là, c'est stylé, quoi. Il y a une identité visuelle. Tu confonds pas avec un autre jeu. En plus, des jeux, c'est les Aztèques. Il y en a pas 36 000 dans le jeu vidéo, tu vois. Donc, enfin, il a son univers à lui. Il a son identité graphique à lui. Les animations sont hyper stylées. C'est pas du pixel art et c'est pas pour me déplaire. Donc, voilà. Moi, j'adhère à fond.
Mais moi, le personnage, il me fait vachement penser, au petit garçon, là, dans Les Cités d'Or. Je sais pas si vous voyez qui c'est.
Esteban. Esteban.
Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est le même personnage.
C'est Esteban au féminin.
C'est ça. Et sinon, après aussi, juste pour dire, sur la Switch, il y a aussi Chaque Fou qui va sortir. Mais j'ai vu le... Mais le... Enfin... Regarde...
C'est sérieux, cette news?
Non, ouais, Chaque Fou, tu vois, le remake du jeu de 94. Et franchement, regardez la vidéo et regardez celle du jeu qu'on vient de parler à l'instant. Et vous allez voir tout de suite la différence parce que Chaque Fou... Le remake est vraiment dégueulasse, quoi. C'est pas possible de faire un truc aussi moche. Enfin, un truc en 2007 plus dégueulasse qu'en 94, c'est chaud, quoi.
C'est Chaque Fou, une légende renaît.
C'est ça.
Je recherche aussi une clé, hein, pour ce jeu. Alors, si vous voulez bien.
Oh, merde.
Et vous savez bien qu'il va pas payer pour ça, hein.
Il fait même les poubelles, quoi. Même les poubelles du jeu vidéo, il les fait, c'est pas possible.
Ah, y a pas de problème, hein, j'assume. Hein.
Bon, c'était le taquet d'ATH. Voilà.
Toujours en ninja.
Bon,
hein.
On va passer à la suite et on va maintenant parler du Kickstarter de Ash of Gods. Mordren, oui. Si je te dis Banner Saga, ça t'évoque des choses, j'imagine.
Oui, ça m'évoque un stream qui a duré jusqu'à 2h du matin parce que j'arrivais pas à terminer ce putain de jeu.
Ouais, c'est vrai que sur la fin t'as un peu ragé et que tu t'es un peu fait troller par le jeu, je me rappelle très bien.
Et par le chat également.
Et du coup, tu l'as fini quand même aujourd'hui ou pas?
Ouais, j'ai fini par le finir. Ouais. Bah d'ailleurs, à 2h du matin, j'ai arrêté quand je l'ai eu terminé.
Voilà, il a finalement réussi.
Persistant, le bougre.
Ashen Gods, c'est un jeu, je pense que quand tu l'as vu, ça t'a rappelé des souvenirs, parce que c'est un jeu qui ressemble énormément à Banner Saga.
Ah oui, t'as pas eu besoin de me le dire.
Dans sa représentation en général, je veux dire, vous voyez Banner Saga, c'est Ashen Gods. Bon, avec un chara-design différent, quand même, parce que c'est un jeu qui a une identité visuelle, là aussi, assez marquée. Mais quand même, dans les modes de représentation, tu sais, des paysages où t'as des fresques en arrière-plan, où t'as les personnages en champ contre champ, dans les phases de dialogue, ils sont allés même jusqu'à reprendre les techniques d'animation de Stoic Studio, et d'ailleurs, ils l'assument dans la vidéo de présentation. Ils filment les gars en train de faire des actions, si vous voulez, à l'épée, etc. Et ensuite, ils redessinent par-dessus. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des animations qui sont super fluides. Alors vous allez dire pourquoi je vous en parle si c'est un énième clone de The Banner Saga, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que certes, dans sa représentation graphique, il s'inspire de Banner Saga, mais par contre, dans son gameplay, c'est un jeu qui me fait très très envie. Et pourquoi il me fait très envie ? Déjà parce que il y a une feature qu'ils ont annoncée que je kiffe, c'est-à-dire que dans ce jeu, ton héros, il peut crever, s'il est mort, il est mort, et l'histoire continue. Déjà, rien que ça, voyez ? Je lève un sourcil. Et puis après, vient le système de combat. Et là, alors c'est du tactique, en tour par tour. Enfin, dans le mode de représentation, encore une fois, c'est comme The Banner Saga. Si vous y avez joué, vous serez pas dépaysé. En vue isométrique, tout ça. Par contre, là, contrairement à The Banner Saga, c'est un système de deck building. C'est-à-dire que tu vas avoir des cartes pour chacun de tes personnages. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est un système déjà où, par exemple, tu pourras choisir de sacrifier tes points de vie pour faire du mal à l'adversaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont montré à un moment donné, le mec, il one-shot un adversaire, tu vois, mais il perd les trois quarts de sa barre de vie, quoi. Donc, c'est un système de prise de risque qui peut être vachement intéressant, déjà. Et c'est aussi un système où il faut que tu fasses gaffe à ton mana aussi, parce que si ton mana arrive à zéro, par exemple, ton personnage se prendra le double de points de dégâts.
Ouais.
Et donc, il y a vraiment l'idée que c'est un jeu où des situations vont pouvoir être retournées grâce à des skills très puissants. Et par contre, ce que je trouve très intéressant, et qui je pense te plaira, Morgan, c'est qu'il n'y a pas de notion de jet day dans ce jeu-là. Oh. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais exactement à l'avance combien de dégâts va faire ta carte et ce que tu vas faire. J'aime beaucoup. Voilà. Ils ont repris aussi quelques idées au niveau de la narration de The Banner Saga, c'est-à-dire que tu vas avoir plein de phases de dialogue où, tu sais, tes potes pourront crever, etc. Moraine,
oui.
Là encore une fois, tu as un historique là-dessus sur The Banner Saga, mais encore une fois, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que même tes personnages principaux vont pouvoir mourir et que n'importe quelle de tes décisions pourra t'entraîner dans des situations où tu vas avoir ton Eddard Stark à toi, j'ai envie de dire, ou... Et ça, je trouve ça super cool, quoi.
Non, ça a l'air sympa. Après, faut peut-être aussi préciser qu'ils demandent 75 000 livres ou dollars, je me rappelle plus.
Dollars.
Et qu'ils en sont, ils ont encore 21 jours à faire, et donc du coup, c'est pas fait, hein. Leur,
ouais, c'est parce qu'ils sont que à 23 000, et je trouve ça triste.
Ouais.
Parce que c'est quand même un Kickstarter qui montre beaucoup de choses. Contrairement à pas mal de Kickstarter.
Carrément, ouais.
Genre, là, je vois, par exemple, moi, ce qui me rend fou, c'est que t'as Ash of Creation qui est un MMO. Et ça me rend fou, tu vois, de voir Ash of Creation où il y a que des promesses, où les mecs ont plus de 2 millions de dollars, et là t'as un projet qui a l'air super polish, t'as des animations de ouf malade, la direction artistique, moi je sais pas pour vous, mais je suis amoureux de la DA du truc. Il y a des features originales en plus, parce que certes ils s'inspirent de ce qu'a fait Banner Saga, mais en même temps quand tu lis le truc, tu vois qu'ils ont des ambitions de proposer quelque chose de bien à eux d'un point de vue gameplay, et ça marche pas, quoi, et ça me rend fou, ça me rend fou.
Ouais, il leur manquera peut-être, tu sais, à l'époque du Kickstarter de Banner Saga, ils avaient proposé une démo, me semble-t-il, ouais. Et c'est peut-être le seul truc qui leur manque.
Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils parlent d'une intelligence artificielle qui apprendra. Bon, alors après, ce genre de promesse, c'est toujours la même chose, c'est bon, est-ce que ce sera vraiment le cas, et surtout, comment tu équilibres ça ?
Je me rappelle que ça avait déjà été dit dans Zone of the Under sur PlayStation, et non, ça a rien fait dans le jeu.
Oui, non, mais après, c'est toujours pareil. C'est un Kickstarter, c'est des promesses. Il y a des jeux qui le font, hein. Je cite toujours, mais Fear, par exemple, il le fait, tu vois. L'intelligence artificielle, ça t'adapte vraiment à ce que tu fais. Après, c'est toujours le même problème. Dans un tactical RPG, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une IA super évoluée, tu vois, qui va te te défoncer en boucle? Comment tu équilibres ça, en fait?
Mais les gars qui font ce jeu, en même temps, il pouvait pas dire qu'il s'inspirait pas de Banner Saga, parce que même moi, tu vois, j'ai jamais joué à The Banner Saga. Mais vu qu'on en a parlé tout ça dans les podcasts et tout, je vois à peu près c'est quoi la représentation visuelle. Et dès que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais attends, mais c'est les mêmes mecs qui ont fait The Banner Saga. Et en fait, pas du tout. Dans ce genre de projet, si c'est juste une inspiration, on va dire, juste visuelle, et que le fond, en fait, il change, tu vois, par rapport à la forme, ça me dérange pas vraiment. C'est, tu peux avoir juste, par exemple, si t'aimes bien une direction artistique, etc. Il y a pas mal de gens qui s'inspirent, voilà, d'œuvres qui sont plus ou moins connues, qui leur font à leur sauce.
On se rappellera tous de Ogre Battle et Final Fantasy Tactics. C'est quasiment les mêmes jeux. Bon, après, c'est le même moteur derrière, mais ils étaient pas dans la même boîte. Mais c'est quasiment le même jeu identique.
Ouais, voilà. Et ça, c'est les mécaniques sont quasiment les mêmes. Après, dans Final Fantasy Tactics et dans Tactics Ogre, visuellement, ça se ressemble. Mais au final, il y a quand même quelque chose derrière qui change, et par rapport aux features qui sont proposées et aux promesses, on peut s'attendre vraiment à une imagerie de Banner Saga, mais avec le fond qui change, quoi.
Et c'est pour ça aussi que je voulais insister, parce que je voulais vraiment dire que de ce qu'ils annoncent, c'est pas juste un clone de The Banner Saga, parce que c'est vrai que ils auraient dû peut-être un peu plus marquer leur différence sur la direction artistique, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, en voyant le jeu, l'ont jugé direct en disant, ouais, non, mais vous faites chier avec votre clone de The Banner Saga, là, c'est honteux, tu vois. Alors que, quand tu lis ce qu'il propose d'un point de vue gameplay, il y a quand même des trucs qui sont très intéressants. Et, je trouve dommage que, parce qu'ils ont repris une certaine esthétique, le jeu soit peut-être jugé derrière à l'avance comme ça, quoi.
Ouais, mais après, voilà, c'est peut-être dommage qu'avec une équipe talentueuse qu'ils ont comme ça, d'avoir pas avoir fait un autre parti pris artistique avec, je sais pas, moi, un truc un peu plus en cel shading. Parce que tu vois, là, t'as vraiment l'impression de dire, ouais, j'ai déjà vu un petit peu ça quand même, même si les mécaniques sont différentes, c'est un petit peu dommage qu'ils ont pas leur propre univers, qui te saute à l'œil, tu vois, directement.
Après, le chara-design, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est la même représentation, si tu veux, mais tu vois quand même que le jeu a une identité, quoi. Enfin, on peut pas dire que le jeu n'a pas une identité visuelle.
Ouais, mais enfin, je sais pas, moi, quand je vois le jeu, ça me fait
c'est
vachement penser.
C'est pas générique,
penser...
quoi. Je suis désolé.
Non, c'est pas générique,
quand même.
Mais ce qui est dommage, c'est que ça fait vachement penser à Banner Saga, quoi.
Après, je suis pas totalement d'accord sur le fait de dire ça. La représentation artistique, elle est la même, mais c'est comme de dire, l'autre a fait de l'animation. Si tu fais enfin, et si un autre fait de l'animation ou du cel shading, ça reste différent.
Il y a quand même beaucoup de choses qui reprennent de Banner
oui,
Saga.
Oui,
non,
mais on est bien d'accord, mais ça reste quand même, enfin, on voit que c'est effectivement la même représentation, mais comme tu le dis, par exemple, il y a le style des différents persos, donc ça reste quand même, il y a quand même une certaine identité, malgré le fait que ça reprend une technique, on va dire, visuelle.
Ouais, peut-être qu'après, en fait, ce genre de représentation graphique, c'est dû au moteur, en fait, c'est plus simple d'avoir ce genre de représentation-là qui sont faites de cette manière-là. Ça leur a permis de gagner peut-être plus de temps, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi ça, parce qu'après, nous, on connaît pas les contraintes techniques, on est juste là, on voit la face émerger de l'iceberg, mais on sait pas par quoi ils sont passés les développeurs aussi.
Je sais, souligner aussi la musique quand même. Il y a un côté très Witcher-esque.
Exactement, ouais, c'est vrai. Ça m'a fait penser un petit peu.
Et voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est un projet que je vais suivre. Alors, je pense que les gars sont extrêmement déçus parce que quand tu vois les stretch goals, ils étaient persuadés. Je pense qu'ils allaient faire un carton avec ce Kickstarter parce qu'il y a déjà des stretch goals à 500 000 $, tu vois.
Ouais, mais faut jamais montrer tes stretch goals avant.
Quand tu commences avec un projet où tu dis, alors ouais, ok, à partir de 500K, on fait ça. Tu te dis, mais alors, attends, est-ce que c'est vraiment le budget dont ils ont besoin? Ou tu sais, juste, ils ont mis ça pour avoir des sous, quoi. Bon, après, ils vivent en Russie, donc c'est pas le même niveau de vie, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas trop critiqué non plus le projet sur son budget, parce que 75 000 $, honnêtement, c'est peanuts. Mais après, ils vivent en Russie, donc ils ont pas besoin des mêmes fonds, on va dire, pour bosser, quoi. Bon, allez. Dans tous les cas, moi, c'est un projet que je vais financer, hein, vous l'aurez compris. Mais comme d'habitude, je le rappelle, Kickstarter, tu mets ton argent, tu considères que tu l'as jeté par la fenêtre. Donc, si vous voulez pas le jeter par la fenêtre, gardez-le. Voilà, voilà. Allez, maintenant, mon cher ATH, on va parler de Steam et de leur programme Steam Direct, qui, je le rappelle, doit remplacer Steam Greenlight.
C'est ça. Alors, en fait, depuis quelques mois maintenant, on nous dit que Greenlight va bientôt fermer pour un autre service, donc qui s'appelle Steam Direct. Avant, n'importe quel développeur pouvait proposer leur jeu sur Steam Greenlight et il y avait un vote qui se faisait par la communauté des joueurs. Et du coup, une fois que vous avez atteint un certain nombre de votes, votre jeu était greenlighté et votre jeu apparaissait sur Steam. Là, cette fois-ci, en fait, Steam a décidé de passer à l'étape, on va dire, qui touche au portefeuille, mais on savait pas encore de combien les développeurs allaient devoir s'acquitter pour pouvoir mettre leur jeu sur la plateforme de Steam. Ça parlait des sommes qui allaient de $100 à $5,000. Ben, maintenant, la révélation est tombée et ça sera donc $100 qui seront demandés, en fait, aux développeurs pour pouvoir mettre leur jeu sur la plateforme de Steam. pourquoi ils ont décidé de mettre un faible biais d'entrée, quoi, pour y accéder. C'est pour pas justement restreindre les développeurs par rapport à ça et d'essayer de toujours avoir une offre beaucoup plus large, quoi.
Par rapport à ça, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était que t'es un billet de $5,000 à l'entrée et que des développeurs potentiellement intéressants ne puissent pas s'acquitter de cette somme, mais que par contre des escrocs qui ont parfaitement les moyens de payer ce genre de trucs passent quand même. Donc c'est un moindre mal, on va dire. Mais le problème demeure, à savoir que Valve, j'espère vraiment que vous bossez sur un système de curation, même que ce soit avec vos communautés ou je sais pas, parce que je rappelle que on avait eu des news récemment qui disaient que Valve allait faire en sorte que les curateurs aient un rôle le plus prépondérant sur la plateforme et que en gros ils mettraient un lot de jeux à tester chaque semaine et que les curateurs donneraient leur avis et qu'ensuite ils mettraient en avant les jeux qui ont eu la meilleure appréciation. Et donc, j'espère que vous le ferez, ça, avant de lancer Steam Direct, parce que sinon, ça va être un boxon pas possible, et déjà que ça l'est, voilà, quoi. Parce que là, par contre, pour le coup, dès que vous lancez ce machin, ça y est, j'ai envie de dire, Valve va ouvrir les vannes, quoi, c'est terminé.
Et du coup, moi, j'ai pas envie de retomber dans le même débat redondant à chaque fois, de par exemple, si Valve doit contrôler les gens, etc.
Bah, de toute façon, la réponse est simple, ils doivent le faire. Point. Après,
non, mais parce qu'on a déjà eu ce débat-là, on en a parlé longuement dans ces podcasts-là, mais je trouve pas ça très sain quand même. Tant que les mecs, ils payent, bah, nous, en fait, on ferme les yeux, on s'en fout, on s'occupe pas de ça. Et c'est ça qui me pose problème, c'est la qualité des jeux qui arrivent sur cette plateforme, c'est tout.
C'est ça. Quelque chose à ajouter, messieurs?
Non,
tout
est dit.
Tout dit.
Ok. On va maintenant parler de changement du côté de la Switch Pixel et du mode premium, on va dire, de Nintendo.
Oui, parce que pour ceux qui le sauraient pas, Nintendo avait prévu, en tout cas pour les jeux classiques de la Virtual Console, de la Switch, qu'ils soient gratuits pendant un mois et après, il fallait raquer.
Quand tu prenais l'abonnement, tu recevais gratuitement un jeu chaque mois, en fait, normalement, c'était comme ça.
C'est ça.
Non, parce que à la base, le jeu était disponible uniquement le mois où tu le payes, c'est-à-dire, on va dire, le mois de mai, même si tu prends par exemple un an d'abonnement, bah, le jeu sera disponible que pour le mois de mai, et après, au mois de juin, t'auras un autre jeu différent.
C'était pour ça que c'était de la carotte.
Voilà.
Ouais. Et après, à mon avis, si tu voulais récupérer une nouvelle fois, une deuxième fois, il fallait raquer. Bah, je pense, ils l'ont jamais dit, mais je pense que ça doit être ça.
Bah oui, enfin, tu devais le payer sur le store comme si tu l'achetais, quoi, en fait.
C'était un essai gratuit pendant un mois.
C'est ça, voilà. C'est-à-dire, si tu veux acheter Metroid, par exemple, Super Metroid sur Super NES, je crois qu'il doit être à 5€ sur l'eShop. Bah, si tu veux continuer à y jouer après la période du mois de mai, comme j'ai cité tout à l'heure dans mon exemple, bah, t'aurais dû payer les 5€ du jeu de base, quoi, tu vois.
Voilà. Et donc, ils ont fait un rétropédalage, comme disent les journalistes de BFM TV. Et là, bah, ils ont décidé, oh bah non, bah finalement, les jeux, vous pourrez y accéder 24h sur 24, que les jeux NES pour l'instant, parce que les jeux Super NES, ce sera pour plus tard dans l'année. Alors j'ai les prix, attention, il y a trois formules, écoutez bien. Pour un an, ça vous en coûtera 19,99€.
D'accord.
Pour trois mois, ça vous en coûtera 7,99€. Et pour un mois, ça vous en coûtera 3,99€.
Ah, plutôt tu veux dire des dollars, parce que pour l'instant, c'est le prix américain qu'on a.
Non, non, c'est des prix en euros.
Ah, d'accord, excuse-moi.
C'est les prix en euros.
Désolé.
Et avec ça, bah, vous pourrez jouer en ligne à tous les jeux de la Switch. Et bien sûr, vous pourrez accéder aux jeux Classic NES et Super NES.
Donc voilà, c'est plus intéressant que l'idée de base, qui était tu payes, et en plus, t'as accès à un jeu sur un mois.
Et tu peux pas le garder.
Et tu peux pas le garder. Bon, là, tu pourras pas les garder, mais au moins, t'auras accès à tout le catalogue, quoi. Donc, c'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal.
Et surtout, que je trouve que, en termes de prix, par rapport aux concurrents qui sont Microsoft et Sony, c'est quand même deux fois moins cher que les concurrents.
Ouais, mais après, c'est pas comparable, c'est pas le même service.
Ça reste une console où, a priori, il y aura pas énormément de jeux gros multi, quoi.
Pas exemple. Non, mais surtout, là, c'est des vieux jeux, si tu veux, c'est pas des nouveaux jeux.
Ouais, mais non, mais par exemple, si tu voudras jouer à Mario Kart Deluxe, en online, il faudra que tu payes. Et je trouve ça mieux de payer, par exemple, 19,99€ pour une année que de payer 50€ pour une année.
Non, mais clairement.
Oui, parce que après, on va être honnête, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est le mode en ligne, en fait.
Ouais. Parce que là, en fait, si je fais bien le calcul, d'ici la fin d'année, en tout cas, dans ce qui est annoncé et ce qui est sorti, les seuls trucs qui sont vraiment jouables en multi et qui sont relativement neufs, c'est Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2. À moins qu'il y ait une surprise réservée à l'E3 d'un truc un peu différent, ou d'un éditeur tiers, pour l'instant, il y a que deux jeux. Donc après oui, je
bon,
comprends.
Bon, après ces deux jeux là, c'est pas enfin
ces deux jeux là suffisent,
c'est des jeux qui vont inciter les gens à payer.
Clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as une ludothèque de deux jeux multi comparé à la multitude des autres
multi,
à côté
s'il te plaît,
qui
Mandarin, trois jeux s'il te plaît.
Tu parles de
quoi? Tu as oublié Ultimate Street Fighter 2 Remix HD, je sais plus quoi.
Tout à fait.
qui est vendu 50€ quand même.
Ouais, putain. Non, mais du coup, c'est difficilement comparable une ludothèque de jeux multijoueurs de cette taille-là face à celle que les concurrents ont, certes à 50€, mais bon, voilà, c'est...
Bien sûr.
Le calcul est fait là-dessus, je pense.
La chose, par contre, qui est sympa avec cet abonnement, c'est qu'il te laisse jouer au catalogue. Donc, c'est-à-dire, pour 19,80€, c'est comme si t'avais le Netflix d'une console rétro.
Ouais, ça, c'est quand même
le
bien.
Le concept, il est pas mal. Du coup, à la place que les gens payent leurs jeux 5€ tous les mois, enfin, pour y jouer, c'est un peu con. Mais juste un petit message personnel, j'ai pas attendu de payer 19,99€ pour jouer à vos anciens jeux. Et un émulateur sur une PSP, et c'est parti, quoi.
Non, mais en tout cas, c'est un plus assez intéressant, quand même. Que pour le coup, les autres seront incapables de proposer.
Disons que quand même, le fait de pouvoir jouer à ces jeux-là sur ta Switch et sur une portable, quoi, c'est quand même.
Ouais, non, mais c'est ça. Le...
Mais disons que quand c'était que un jeu, c'était la carrosse. Là, bon, on va dire que c'est un bonus, quoi.
Ouais, non, mais là, au moins, enfin, je trouve ça sur le principe beaucoup plus honnête, parce que quand même, voilà, les catalogues de la NES et de la Super NES, enfin, surtout celui de la Super NES qui m'intéresse beaucoup plus, qui est assez vaste. Il y a quand même pas mal de jeux qui sont assez cultes aujourd'hui. Parce que la NES, je pense que si t'as pas connu la NES à l'époque, c'est assez compliqué d'y jouer aujourd'hui. Alors que la Super NES, t'as encore des jeux en 2D qui sont encore très beaux aujourd'hui, je trouve. Et je pense que tu peux faire ça, découvrir ça à tes gamins ou bien à tes neveux, que tu viennes chez toi, tu leur mets un petit Mario, un petit, je sais pas, un petit Zelda sur la NES.
Oui,
et sur la Super NES, ils savent très bien comment ça joue, c'est simple, c'est intuitif. Et le fait que ça soit une console portable en plus avec l'écran de la Switch, je veux dire bingo, quoi. C'est enfin pour moi, tu vois, limite la Super NES Mini après elle servira pas à grand chose, quoi.
De toute façon, la Super NES Mini, ce sera pour les collectionneurs.
Non, mais
c'est
exactement.
Pour la NES Mini, hein.
Ouais, mais les collectionneurs, on sait très bien qu'ils vont la racheter pour le remettre à revendre sur eBay à 1000 balles plus tard, mais ça, c'est un autre débat, quoi.
Mais je trouve le pricing intéressant parce que c'est accessible au casu du multi. C'est
exactement
un peu mon cas, en fait.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé de payer un abonnement à Xbox Live Gold ou à PS Plus. Parce que moi, n'étant pas un gros consommateur de jeux multi, si je paye 50€, en fait, je vais me sentir floué, en fait. Alors qu'en fait, 20 balles pour profiter à la fois de jeux qui sont pas multi, c'est-à-dire le catalogue NES, SNES, plus de temps en temps, quand j'ai envie de me faire une partie multijoueur avec des gens qui sont pas dans mon salon, ça me paraît beaucoup plus honnête comme pricing. Ouais.
Et puis, moi, ça m'intéresse aussi parce que... Enfin, j'en discutais récemment, d'ailleurs, avec un pote, et parce qu'il voulait me donner son idée PlayStation Plus... Moi je lui disais, tu sais, moi j'ai pas le PlayStation Plus, donc voilà, moi je veux bien le prendre ton idée, mais j'ai pas l'intention de payer pour jouer en ligne, quoi. Mais en fait, parce qu'il me disait, oui, mais t'as quand même un jeu gratuit chaque mois et tout, mais moi je disais, mais j'ai déjà pas le temps de jouer aux jeux que j'achète, alors qu'on m'offre un jeu chaque mois, si tu veux, ça me fait une belle jambe, quoi, en fait. Et du coup, ça revient cher, si tu veux, je trouve, pour jouer en ligne, quoi. Là, le fait de payer 20 balles pour jouer en ligne, bon... Même si ça me fait chier, que ça me ferait mal au cul, ça se discute.
Ouais. Non, mais ouais, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que, enfin, par exemple, 3,99€ pour un mois, bon, bah, ça te fait même pas le prix d'une pizza au final. Donc, voilà, t'as de la famille qui va venir et tu veux leur faire découvrir Mario Kart en ligne. Par exemple, voilà, vous jouez à deux en ligne et puis avec d'autres personnes. Bah, c'est 3,99€, tu vois, c'est même pas le prix d'un billet de cinéma. Donc, au pire, tu perdras pas grand chose.
Bah, surtout que t'es pas obligé de prendre l'abonnement d'un an, hein. Par exemple, t'as une grosse période de jeu sur Mario Kart, tu le prends sur un mois.
Voilà.
À la limite, tu prolonges, et puis une fois que t'as fini, bah, t'arrêtes l'abonnement et tu passes à autre chose.
Ouais, exactement. C'est pour ça que je trouve le prix, par rapport aux autres consoles, il est beaucoup plus dégressif. Tu vois, par exemple, là, c'est 3,99€ un mois, 7,99€ trois mois, et 19,99€ l'année. Donc, franchement, si t'es un gros joueur de jeux multi Nintendo, c'est encore beaucoup plus encourageant que de le prendre, genre, mois après mois, parce que au final, tu vas être perdant.
Ouais, bon, par contre, à condition que le service soit potable. Hein. Moi, le online, j'ai gratuit sur PC, ça marche très bien. Mmh. Donc, j'attends qu'à 3,99€, j'ai un service qui marche bien.
Non, mais ça, c'est, enfin, voilà. Pour moi, à partir du moment où il y a une transaction, c'est la base. C'est-à-dire, tu dois proposer un service nickel. Tu peux pas arriver à dire aux gens, vous payez, et tu leur proposes le même service que sur la Wii U ou sur la Wii, et qui est totalement dégueulasse, tu vois. Non, mais là, tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Alors là, c'est vraiment que Nintendo se fout de la gueule royale du monde, tu vois.
Ouais. Bon, allez, messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite, et on va parler, Dwayne, du feuilleton de Square Enix IO Interactive Hitman.
Et oui, et oui. Donc, il y a plusieurs semaines, Square Enix a remercié les développeurs de Hitman, donc à UA Interactive. Dernièrement, il y a eu une réunion avec les investisseurs. Du coup, on a quelques documents qui sont sortis. Et donc, on a la confirmation, du coup, que la licence appartient bien à Square Enix. Il y a des discussions. Ça va soit revenir donc à IO, qui va partir donc chez un autre éditeur, pour continuer sur la licence.
Il y a une autre possibilité, c'est que Square Enix revende la licence à quelqu'un qui nous reprend pas IO Interactive.
Exactement. Et d'ailleurs, il y a aussi eu une nouvelle comme quoi Square Enix allait bosser. Donc, ils ont annoncé ça juste après avoir balancé IO Interactive, à bosser avec People Can Fly, qui avait fait Bulletstorm et Painkiller.
Bah écoute, on leur souhaite que leur prochain jeu se vendra à au moins 5 millions d'exemplaires pour qu'ils soient satisfaits chez Square Enix.
Voilà, l'échange ne me paraît pas extrêmement...
Et encore.
extrêmement qualitatif, mais...
Et bon courage.
Voilà, c'est ça.
Moi, c'est ça qui m'emmerde avec tout ce qui est propriété intellectuelle ou bien un système de droit, etc. C'est que les mecs, c'est quand même leur licence à eux. Et au final, bah, t'es quand même dépossédé par des questions de légal et juridique. Alors que finalement, c'est Hitman, tu vois, c'est leur bébé. Et Square Enix, limite, ils en ont rien à foutre. Ils revendent la licence Hitman, c'est juste pour eux, c'est juste un moyen de faire du pognon. Alors que les développeurs...
Bon, après,
c'est
tu me diras, ils pourront toujours créer un nouveau jeu
oui, mais... oui.
en l'appelant Assassin. Ah non, mais excusez-moi, ils peuvent pas mettre Assassin dans le titre.
Ouais, ils peuvent très bien faire ça. Mais ça se trouve que si demain, les studios appuient Hitman, les mecs vont plus bouffer quoi.
Mais le truc horrible en fait, c'est que IO Interactive serait capable d'acheter la licence, ça poserait pas de problème. Le problème, c'est je pense qu'ils en sont incapables, donc ils vont être obligés de trouver un nouvel éditeur qui sera lui en mesure d'acheter la licence et ensuite d'avoir les reins assez solides pour leur faire développer leur futur jeu. C'est un bordel, hein. Et du coup, ça va être rebelote, parce que si l'éditeur est mécontent, il va faire le même délire que Square Enix, hein.
Surtout que Hitman, ça n'a jamais été une licence qui a vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Ça a toujours été des licences qui sont vendues à 1 million, voire 2 millions d'exemplaires. Et c'est tout, oui. Tu vois. Hitman, ça n'a jamais été une licence ultra connue. Enfin, ouais. C'est pas la licence la plus grande public qu'on connaisse, quoi.
Ouais, mais le truc, en fait, c'est que j'ai l'impression que les éditeurs sont dans une... perspective de je veux faire plaisir à mes actionnaires, donc j'annonce tant de trucs, mais en réalité ils savent très bien que c'est infaisable. Alors pourquoi ils baissent tout simplement pas leur perspective ou alors leur budget? Moi, je comprends pas trop le capitalisme là-dessus, mais bon, c'est
bon, Ren, si tu commences à chercher à comprendre le capitalisme,
on est pas là.
Enfin, bon, bref, messieurs, on va arrêter là. Qu'on enchaîne parce que
on va pas rentrer dans les systèmes boursiers, etc.
Mais en plus ATH, tu vas devoir bientôt partir, donc il faut qu'on enchaîne. On va terminer, messieurs, avec une news sur des nouveaux.
Ouais.
Et on va parler, mon cher Mandren, d'un jeu qui a utilisé des DRM, parce que maintenant, ça devient la mode chez les indés aussi. Donc, voilà.
Oui, alors c'est un jeu qui s'appelle Rime, un développeur qui s'appelle Tequila Works. Et le jeu Rime, en fait, est sorti fin mai avec un DRM embarqué qui s'appelle Des Nouveaux, donc un système anti-crack.
Bien connu.
Voilà, bien connu et toujours aussi apprécié par les communautés de gamers, bien sûr. Et le fait est que Rime est devenu recordman, le recordman du jeu embarquant Des Nouveaux, le plus rapidement piraté.
Yes. Je pense pas que les développeurs disent ça.
Voilà, et donc il se trouve que le jeu a mis 5 jours à être craqué, ce qui pour info est deux fois moins que Mass Effect Andromeda est prêt, qui embarquait tous les deux Des Nouveaux. Et là où c'est intéressant en fait, c'est que le développeur, donc Tequila Works, a décidé donc d'enlever purement et simplement Des Nouveaux de Rime. Donc c'est-à-dire que si vous achetez Rime désormais, vous avez une copie qui est sans DRM. Donc ça, c'est toujours, bien sûr, intéressant. Et, petit fun fact, la personne qui est responsable du crack du Des Nouveaux de Rime a précisé qu'il s'était rendu compte que sur Rime, l'anti-crack était responsable de jolis problèmes d'optimisation.
Tous les ralentissements du jeu, d'après lui, venaient de là.
Voilà, c'est-à-dire qu'il avait jamais vu ça avant, puisqu'il avait déjà craqué... Nier est prêt avant ça, et il s'est rendu compte en fait que le jeu, le Des Nouveaux augmentait de 300 fois plus les appels au serveur sur Rime que sur les deux autres.
Habituellement, tu as un, deux triggers tous les quelques secondes, on va dire. Enfin, où ils font un appel sur les serveurs une ou deux fois sur quelques secondes. Là, t'en avais 10 à 30 toutes les secondes.
Voilà, et donc ce qui a expliqué a priori, selon lui, les problèmes de ralentissement autour du jeu. Donc, en enlevant Des Nouveaux, a priori, le jeu tourne mieux.
Bon, après, c'est pas vérifié, et non. Comme d'habitude, bon, c'est le cracker qui dit ça. Je vous avoue que je me suis pas amusé à acheter le jeu pour, voilà. Dans tous les cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, au-delà même des soi-disant problèmes de performance ou pas, moi, ce qui me pose problème avec les nouveaux, encore une fois, c'est la postérité. Si s'il meurt, comment on fait pour garder le jeu? Comment on fait pour conserver? Si les serveurs de des nouveaux sont down, comment tu fais pour conserver le jeu? Enfin, voilà. Jusqu'à maintenant, des nouveaux, c'était le système de protection réputé incraquable. Bah, ça y est, ouais. Il a été craqué, là, maintenant, il tient plus que 5 jours. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ce qui me concerne.
Moi, par contre, le truc qui me fait vraiment chier, si ces faits sont avérés, ce qui me fait chier, c'est que voilà, que les gens qui ont payé leur jeu de manière honnête aient plus de problèmes que ceux qui l'ont craqué, tu vois.
Comme d'habitude.
Non, mais c'est ça qui est con, en fait, dans le processus. C'est que toi, tu payes et que t'as la moins bonne expérience, en fait. Enfin, voilà, quoi, c'est, au bout d'un moment, c'est, ok, bah, si vous voulez que les gens payent et que vous mettez des protections, assurez-vous au moins de proposer quelque chose de qualité.
Oui,
de
que ce soit propre.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Parce que, là, clairement, à mon avis, il y a eu un gros souci d'implémentation, du DRM. Parce que si les autres jeux, il y avait pas ça, puisque, c'est le cracker lui-même qui le dit, hein. Sur les autres jeux, il a pas constaté ça. C'est vraiment le premier jeu, il voit ça. C'est qu'il y a eu un souci d'implémentation, ce qui est quand même un problème. Surtout quand on sait que ça leur a coûté de l'argent. Et c'est pas rentable, tu vois, enfin c'est clairement pas rentabilisé. Et d'une manière générale, je voulais dire une chose, quoi qu'il arrive, moi je pense pas que des nouveaux fera des miracles. C'est-à-dire que par exemple, regardez le jeu de Frédéric Reynal, là.
Too Dark,
qui est sorti avec des nouveaux. Alors que, je rappelle, durant leur campagne de financement participatif, parce que c'est un jeu qui avait été financé par sur Indiegogo, je crois, non, ou sur Ulule, il me semble. Enfin, je sais plus, c'était Ulule ou Indiegogo. Je rappelle que durant cette campagne, ils avaient promis que le jeu serait DRM free. Et tout ça pour s'assurer des soi-disant ventes supplémentaires, ils ont annulé l'accord qu'ils avaient passé tacitement avec leurs contributeurs, c'est-à-dire de ne pas mettre de DRM, pour se protéger. Merci de nous avoir donné de l'argent, les gens, cassez-vous. Les mecs qui te financent sur que ce soit Kickstarter, Ulule et compagnie, ce sont tes premiers fans en fait. Et quand tu commences, à l'époque où on est aujourd'hui, tu sais qu'il y a une époque où c'est extrêmement difficile de se faire connaître, par faire un doigt à tes fans, ça commence mal, quoi, on va dire. Et résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé avec Too Dark, hein, leur super protection de la mort qui tue? Bah, le jeu, il a fait un four. À l'époque où j'avais regardé, parce que j'ai pas regardé depuis, hein, très honnêtement, il s'était même pas vendu à 10 000 exemplaires.
Ouais, mais après, il faut dire que le jeu, il s'est quand même mangé des sacrées sales notes dans la presse.
Ouais, mais même, tu vois, la preuve que des nouveaux ne fait pas des miracles non plus. C'est-à-dire que si ton jeu il est pourri et que en plus derrière tu ne respectes pas tes fans, bah voilà, ça se paie à un moment donné. Bref, je vous propose qu'on en termine là pour l'actualité, à moyen que vous ayez quelque chose à ajouter, messieurs.
Non.
On va passer au jeu du moment, le jeu qui m'a fait péter ma manette Xbox One, bien malgré lui d'ailleurs. Et ce jeu, c'est The Search.
Don't you want to wake up to a brighter future? Isn't that what everyone wants? We can all make a difference. Log 5. They consume and process the organic matter they find. Log 6. There's a pattern here. It's not just a system anymore. It's alive. Creating life.
Donc, The Surge, pour rappel, c'est le nouveau jeu de Deck 13. Deck 13, ce sont les créateurs de Lord of the Fallen. Lord of the Fallen, qui était donc un Dark Souls Light, qui s'est fait casser en deux à l'époque, parce que bon, visiblement, il était pas bon. Alors, je dis visiblement, parce que moi, j'y ai pas joué, parce que je vous avouerai que le jeu, ce que j'en avais vu à l'époque, ne m'avait pas du tout attiré, et je l'avais pas acheté, tout simplement.
Moi, j'y ai joué, hein. Je l'ai acheté sur PC.
Je l'ai fini, tu joues à Homefront, je sais pas quoi, là.
Ça va te suivre jusqu'à la fin, ça pixel, hein.
Putain, le clash.
Non, mais moi, j'assume aimer Homefront The Revolution. Y a pas de problème. Ouais. J'assume, mais donc, jusqu'au
Lord
bout.
Lord of the Fallen, pixel.
Et Lord of the Fallen, c'est un, c'est-à-dire que Deck 13, moi, j'aime bien dire Deck 13, plutôt, ils ont voulu copier Dark Souls, mais ils ont pas compris les mécaniques. Donc, ce qui fait que The Lord of the Fallen, il est graphiquement joli. Mais à part ça, en fait, le gameplay, il est pas vraiment génial. C'est vraiment du Dark Souls light, light, light. Et ils ont pas compris le fait que tous les ennemis pouvaient être battus de plein de façons différentes. Alors que dans ce jeu, bah, les ennemis, on peut les avoir très généralement que d'une seule façon, quoi. Et il y a très peu de magie. Le design des armures se répète beaucoup. C'est un premier essai, mais c'est presque manqué, j'ai envie de dire.
Oui. Alors, je vais casser le suspense tout de suite. The Surge est vraiment pas mal. Vraiment, c'est un bon Dark Souls Light, et je pense qu'ils ont appris leurs erreurs sur Lord of the Fallen. Pourquoi ? Parce que, un peu comme Nioh, c'est un jeu qui ne s'est pas contenté de copier Dark Souls, c'est un jeu qui essaye de faire aussi les choses à sa sauce. Alors, Nioh, je le rappelle, son délire, lui, c'est de mettre trois stances et un système de combat bien péchu. The Surge, lui, la grande idée qu'il a eue, et franchement, c'est l'idée, moi, qui m'a fait adorer ce jeu, c'est le fait que tu ne vas pas récupérer directement les armures sur tes ennemis, tu vas devoir les crafter, en fait. Pour crafter une armure, il faut arracher le membre correspondant sur tes ennemis. C'est-à-dire que, grosso modo, je rappelle, The Surge, c'est un jeu dans un univers futuriste. Tu es un ouvrier qui s'appelle Warren. Et donc, Warren, un peu comme Gordon Freeman, quand il arrive en train vers son lieu de travail, ça va être un peu la merde pour son premier jour de boulot. On va dire ça comme ça. Le problème, ce pauvre Warren, c'est que au moment où il va recevoir la chirurgie pour se faire greffer son exosquelette, bah l'anesthésie, elle va pas être faite et il va se faire opérer à vif. Il va tomber dans les pommes, hein, bien évidemment, parce que quand on te perce l'arrière du crâne en direct, voilà, ça fait pas du bien, quoi, on va dire. Il va se réveiller dans un complexe industriel complètement dévasté. Les drones qui sont présents sur les lieux sont devenus complètement barjots. Les ouvriers qui sont là, on dirait un peu des zombies, c'est-à-dire que certes ils ont une forme humaine, mais t'as l'impression qu'en fait c'est un peu l'exosquelette qui a pris le contrôle de leur corps et voilà, qui leur fait attaquer tout ce qui est vivant à vue, quoi. Et donc voilà, bienvenue pour ton premier jour de taf, Warren. Et donc, pour revenir à cette histoire de craft, pour récupérer ton matos, tu vas devoir attaquer les autres ouvriers et leur arracher des membres. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as besoin d'un bras mécanique, bah, il va falloir arracher le bras d'un ennemi, récupérer les plans, etc. Et ensuite, récupérer le matériel, le loot nécessaire pour crafter le matos. Et c'est ça la grande idée de The Surge. Parce que, du coup, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu arrives à face à un ennemi, soit tu attaques la partie qui est faible, où il n'y a pas d'armure dessus, mais par contre, tu ne récupéreras rien dessus, c'est-à-dire que si tu attaques un torse à l'air, on va dire, ben c'est un torse à l'air, hein, il n'y a pas de matos dessus. Donc comme il n'y a pas de matos dessus, ben, tu récupères pas de métal, tu récupères pas un modèle de torse, par exemple, une nouvelle armure pour, tu sais, l'analyser et ensuite reproduire une copie. Donc tu récupères rien, en fait, quand tu attaques une partie à nu. Par contre, si tu attaques une partie à nu, tu vas tuer beaucoup plus vite l'adversaire, en fait. En revanche, si tu décides de farmer, là, tu vas attaquer les parties qui sont protégées, mais ça sera beaucoup plus long pour tuer l'ennemi. Et donc, il y a un choix qui s'opère à ce moment-là entre est-ce que j'attaque un membre qui est protégé ou est-ce que j'essaye de tuer rapidement mon adversaire, en fait. Mécanique qui, vous l'imaginez bien, est très intéressante à partir du moment, par exemple, où t'as, allez, 2-3 adversaires maximum qui sont autour de toi, quoi. Parce que c'est un jeu qui, en termes de punch, on va dire, est beaucoup plus proche d'un Nioh que d'un Dark Souls. C'est vachement nerveux, faut être très réactif. Et du coup, ben, c'est un jeu où, très rapidement, tu vas devoir choisir entre le fait d'être efficace et le fait de péter la gueule à tes ennemis et de récupérer du matos pour améliorer ton équipement, sachant que l'amélioration de l'équipement, c'est quand même essentiel dans ce jeu, Parce que je peux te dire que quand tu arrives dans une nouvelle zone, que tu as une arme de niveau 2, et par exemple que les mobs sont niveau 3, du point de vue de leur matos, eh bah tu le sens, hein. Putain, tu la sens la différence, quoi. Et du coup, t'essaies de farmer un maximum pour récupérer du nouveau matos.
D'ailleurs, j'ai une question. Vu que t'as dit que les combats étaient plus longs si tu voulais attaquer, par exemple, admettons, l'avant-bras d'un personnage pour lui récupérer son loot, est-ce que tes armes à toi ont un système de destruction par rapport à ça? Parce que si je pense que...
Non, non, il n'y a pas de système d'usure, comme dans un Souls. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas forcément un défaut, parce que, je veux dire, il y avait un système d'usure dans Dark Souls 3... On se rappelle tous du fait qu'il était inutile, quoi.
Non, mais c'est pour ça, c'était pour savoir juste par rapport à ça, si on t'aurait mis un système d'usure à la Dark Souls 1, etc., bah, plus tu tapes les ennemis, bah, plus tu dois faire attention, tu vois. Donc, au bout d'un moment, peut-être que des fois, tu vas voir que ton arme, il lui reste la moitié de sa barre de vie, bah, tu vas dire, bon, bah, là, même si j'ai envie de looter ce super équipement, je vais pas prendre le risque de péter mon arme, je vais attaquer le torse parce qu'il est vide, tu vois.
Ouais, bah, si tu veux, là, par contre, heureusement qu'ils ont pas fait ça parce que je pense que là, j'aurais pété un câble. Hein. Quand tu attaques un membre, en plus, pour réussir à arracher un membre, il faut taper plusieurs fois d'affilée dessus, en fait. Donc, du coup, tu sais, tu peux pas essayer de cheeser le jeu, par exemple, en disant, alors, ok, je vais taper sur le point faible, et au dernier moment, je vais attaquer son membre protégé pour lui arracher le bras. Non, ça marche pas comme ça, ça serait trop facile.
Sinon. Ouais, bah oui.
C'est déjà suffisamment pénalisant, quoi, si tu veux, de ce point de vue-là. Donc, rajouter en plus par-dessus un système d'usure d'âme, putain, heureusement qu'ils ont pas fait ça, parce que là, Alors. Je vais le dire tout de suite, pour moi, je trouve le système de combat de The Surge plus plaisant que celui de Dark Souls. Bon, en même temps, le système de combat, c'est pas le truc qui me plaît le plus hein, dans Dark Souls, mais aussi plus plaisant que celui de Nioh, par exemple, que j'ai beaucoup apprécié par ailleurs. Il y a une notion d'esquive, etc., qui est super bien gérée, je trouve. Et tu sais, le moment où t'as ton perso qui arrive, qui arrache un bras, qui découpe un ennemi en deux. Il y a un côté super jouissif, super plaisant là-dedans, qui est vraiment... J'ai pas ressenti ça dans Nioh, quoi. C'est un jeu qui te donne énormément de feedback durant ces combats, et c'est un système de combat sur lequel j'ai pris énormément de plaisir, quoi, on va dire.
Mais pourtant, c'est, enfin, ça a l'air assez paradoxal, parce que quand tu vois un peu les vidéos de gameplay du jeu, t'as l'impression que c'est des mecs, voilà, qui se baladent en grosse armure, etc. Et du coup, que le jeu, il a l'air d'être quand même assez loin, etc. Et que tu contrôles plus des mechas que des humains.
Au début, c'est un peu le cas, ouais. C'est vrai. C'est-à-dire qu'au début, t'as un personnage, il fait vraiment penser à Dark Souls au début. Même si, je veux dire, ne serait-ce que pour son esquive, l'esquive est beaucoup plus généreuse que dans Dark Souls, quoi. Tu vois, c'est un peu, tu sais, le pas de côté dans The Witcher 3, quoi, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Même s'il est lourd, t'as quand même la sensation d'avoir un perso beaucoup plus fluide, en fait, que dans un Soul. Le système est beaucoup plus péchu. Et surtout, en plus de ça, tu as un système d'implants. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des implants qui vont t'améliorer ton endurance. Il y a des implants qui vont t'améliorer ta santé. Il y a des implants qui vont te faire récupérer de la vie quand tu vas tuer un ennemi en lui arrachant un membre. Et d'ailleurs, c'est la spécialisation de mon perso, c'est-à-dire que moi, j'ai fait un perso, si tu veux, à chaque fois qu'il tue un ennemi, en coupant un bras, par exemple, ben, il récupère 50% de sa barre de vie, à peu près.
Du coup, t'as des facilités comme ça qui viennent t'aider un peu dans le gameplay, par rapport à un Souls.
Plus que des facilités, tu as une notion de build. Bon, déjà, c'est beaucoup moins obscur qu'un Souls, c'est-à-dire que le système est très clair, et ça, c'est... Oh putain, ah oui, ah oui, un système de jeu clair, et même beaucoup plus clair qu'un Nioh, parce que moi, un des reproches que je fais à Nioh, par exemple, c'est le fait que on te met plein de stats, et tu vois pas tellement l'impact, en fait, si tu veux, une fois que t'es dans les niveaux, quoi. T'as pas une énorme sensation d'évoluer, quoi, on va dire. Mm-hmm. Alors que dans The Surge, à chaque fois que t'installes un implant, bah, tu vois la différence, quoi. Quand tu as un implant qui te restaure 30% de ta barre de vie, bah tu vois la différence. Quand tu as un implant qui augmente l'impact de tes armes, tu vois la différence. Pour moi, c'est vraiment le gros point fort de ce jeu. Si vous aimez les combats, c'est un super jeu. Attention, je précise, si vous aimez des combats contre les ennemis de base. Parce que par contre, The Surge, il a un défaut, c'est qu'il n'a que 5 boss. Ah. Donc c'est pas un jeu à boss fight à la Souls. Alors après, c'est un jeu, je pense, qui doit pouvoir se terminer en 25 heures à peu près.
Mais est-ce que les 5 boss ils sont bien ou pas, au moins? Ou c'est générique?
Il y a quelques idées, si tu veux, mais ils ont encore vraiment du taf à faire à ce niveau-là. Ils ne sont pas du tout encore au niveau de From Software. Tous les boss, c'est des gros boss, à part un. Mais le problème, c'est que si tu veux, il y en a un, c'est un boss humanoïde. Mm-hmm. Un ennemi, on va dire, parce que techniquement, le dernier boss, il y a une phase où il est en forme humanoïde aussi. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il appelle un autre ennemi qui est immense. pour que du coup tu te retrouves aussi avec des gros ennemis. Et tu sais comme moi que dans Dark Souls, quand tu te retrouves face à des gros machins, des fois la caméra, surtout si l'ennemi bouge vite, il y a des problèmes. Et bah là c'est pareil, t'as des gros ennemis qui bougent vite et ouais, la caméra, il y a des problèmes. Le boss qui m'a fait péter un câble, c'est le troisième. Tu te retrouves dans une espèce d'arène où t'as des bras qui t'encerclent de tous les côtés. Et là, tu te fais défoncer. Et c'est du mauvais design, ça, pour moi, tu vois. C'est, en gros, tu vas à droite, il y a un bras qui tape. Tu vas à gauche, t'as un bras qui tape. Tu restes au milieu, t'as quatre bras qui tapent. Attends, mais je fais quoi, là? Et du coup, le seul moyen que j'ai trouvé pour passer ce boss-là, par exemple, c'est, j'ai pris 9 Steam Packs. Je me suis mis des améliorations qui m'ont ajouté des Steam Packs. Alors, par contre, spécificité du jeu, contrairement à un Souls où, tu sais, t'as la fiole d'Estus, il pose pour boire, etc. Là, le soin est instantané, hein.
Ouais.
Et du coup, bah j'ai bourriné les Steam Packs et j'ai pété le plus rapidement possible les bras pour attaquer la dernière phase du boss, quoi. Voilà. Donc vraiment, les boss pour moi c'est le plus gros point faible de The Surge. Par contre, si vous êtes un joueur, tu sais, qui apprécie de farmer, parce que je pense quand même qu'il faut aimer farmer dans ce jeu, parce qu'il y a quand même quelques phases où t'es obligé, si tu veux, de récupérer les composants nécessaires pour améliorer ton perso, parce que sinon tu vas galérer, mais un truc de ouf, quoi. En fait, ils ont un peu inversé la perspective, je trouve, par rapport à un Souls, parce que les boss, ils sont pas palpitants, alors que dans un Souls, les boss, c'est le moment que t'attends, quoi, tu vois, c'est le moment, ne serait-ce qu'en termes de mise en scène, de spectacle, etc. Là, The Surge, la mise en scène, couchée. Par contre, les combats contre les ennemis boss sont super plaisants, quoi. Aussi, je rajoute par rapport au build que, par exemple, à un bout d'un moment, tu débloques un drone, qui va t'accompagner, et ces drones ont des pouvoirs spéciaux qui sont très intéressants aussi. Par exemple, moi, dans mon build, j'avais fait un perso qui activait un bouclier, qui réduisait les dégâts. Et en plus de ça, j'avais rajouté un implant qui faisait que je gardais toujours 20% de mon énergie en réserve. L'énergie étant le mana du jeu, hein. Et cette énergie, elle me permettait, tu vois, de commencer tous mes combats avec un bouclier, vu que j'avais tout le temps une réserve d'énergie sur moi. Parce que je précise, plus tu tapes un ennemi, plus je vais acquérir d'énergie. Mais par contre, une fois que t'as fini de te battre avec un ennemi, elle va baisser au fur et à mesure du temps. Et donc, une fois que tu arriveras à l'ennemi suivant, potentiellement, si t'as pas mis d'implant, en fait, tu n'auras plus de mana, quoi, entre guillemets. Sachant que les finish moves, il faut que t'aies augmenté ta barre d'énergie pour pouvoir les faire, quand même. Il y a vraiment des notions de build qui, moi, me plaisent beaucoup en tant que joueur d'Hack and Slash, quoi. C'est beaucoup plus omniprésent, je trouve, que dans un Souls, ou même s'il y a des builds, hein, dans les Souls, on est d'accord, hein. Mais si tu veux, c'est beaucoup plus rapidement concret, quoi, on va dire, ouais, que dans un Souls, et surtout, beaucoup plus que dans Nioh, parce que Nioh, je trouve que c'est une de ses faiblesses, déjà, par rapport à Dark Souls, à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, combat, qui est vraiment très intéressante. Par contre, le jeu a des défauts. En dehors des boss, pour moi, son grand défaut, c'est très générique, quoi. Enfin, vous avez vu les vidéos du jeu, donc ouais, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Enfin, je trouve que moi, le jeu m'a pas du tout attiré par son aspect esthétique. J'ai l'impression de voir tout le temps le même type d'environnement avec un éclairage différent. Et je voulais savoir justement si dans les trailers, la communication du jeu, c'était ils sont trompés un petit peu en mettant par exemple les premiers environnements, ou c'est vraiment comme ça pendant tout le jeu.
Le truc, c'est que c'est comme c'est un complexe industriel, si tu veux, c'est pas mal relié par des conduites d'aération, tu vois, ce genre de choses. Mm-hmm. Ces conduites, elles se ressemblent toutes, en fait, tout le long du jeu. Mm. Tu as tout le temps le même décor, en fait. Par contre, c'est une fois que tu es dans les décors un peu plus ouverts, quand on va dire, là, tu vois des différences, mais si tu veux, t'as pas des différences de ouf, comme dans un Souls, par exemple, où entre Irithyll of the Boreal Valley et le Château de Lothric, bah, c'est pas du tout la même histoire, quoi, tu vois, en termes de DA, quoi. Non, on va dire. C'est le gros reproche que je fais au jeu, c'est que déjà, visuellement, il est quelconque, et surtout, les décors se ressemblent tous tellement que des fois, tu sais pas où t'es. Alors certes, il y a des moments, par exemple, où ils vont te mettre, tu sais, des panneaux pour te dire, alors par là, il y a un ascenseur, par là, il y a la medbay. La medbay, en fait, c'est le centre médical, c'est le bonfire, en gros, si tu veux. Et donc, t'as pas cette notion, tu sais, dans un Souls, où là, t'arrives à un endroit où tu visualises la map, où tu te dis, ah oui, là, je vois où je vais réatterrir, etc. Et pourtant, je pense avoir un bon sens dans l'orientation, mais là, il y a vraiment des moments dans le jeu où je savais pas où j'allais, quoi. Et c'était un peu frustrant, quoi. Bon, par contre, moi, j'ai de la chance, si tu veux. J'ai quand même une bonne mémoire, quoi. C'est-à-dire que quand je suis allé à droite, je sais que je suis allé à droite. Même si le décor est identique, je sais que je suis passé par là. Mais par contre, je pense que des gens, par exemple, qui n'ont aucune mémoire, aucun sens de l'orientation, ce jeu, ça va être une horreur pour eux. Parce que en plus, il y a un truc qui est chiant dans ce jeu, c'est que les âmes, qui sont les scraps, en fait. Les scraps, c'est le métal que tu récupères sur tes ennemis. Il faut savoir déjà que tu as un timer quand tu meurs, c'est-à-dire que, par exemple, t'as 2 minutes pour récupérer tes âmes. Alors, sachant que tu peux augmenter ce timer en tuant des ennemis sur la route, mais si tu te paumes, on va dire que tes âmes, tu les récupères pas, quoi, tu les oublies. Et donc, imagine quelqu'un qui n'a aucun sens de l'orientation, à mon avis, il pleure, tu vois, sur ce jeu. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que d'un point de vue de level design, certes, il atteint pas le niveau de majesté de Dark Souls 1, quoi, on va dire. Mais par exemple, je le trouve même limite parfois supérieur à Dark Souls 3 en termes de structure. Chaque niveau est construit de manière à ce que t'as une medbay au centre du niveau, en fait, et au fur et à mesure, tu vas débloquer des raccourcis qui vont te permettre de rejoindre la medbay. Bon, je précise que la TH est partie, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est un jeu qui est super bien conçu en termes de structure, mais par contre c'est un jeu qui n'a pas, si vous voulez, la visibilité d'un Souls, quoi. C'est-à-dire qu'un Souls, tu arrives, tu visualises où tu vas aller, là t'es paumé en fait. Et ça c'est un des gros défauts du jeu. Dernier défaut du jeu aussi pour ma part, ça sera la narration visuelle. C'est-à-dire que vous savez, les Souls, ce sont des jeux qui racontent beaucoup de choses par les décors, etc. Là, on a une narration très classique. C'est-à-dire, on a une narration à la BioShock, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Les bons vieux audiologues des familles, quoi. Et ça, par contre, c'est le truc qui m'a hérissé le poil, quoi, on va dire, pendant le jeu. Tu les imagines en train d'enregistrer leur truc. Je suis en train de mourir, mais... alors, j'ai fait ça. Ils te racontent ça, ils pendant 5 minutes, et après, ils crèvent, tu vois. Enfin, ça, c'est la narration que... Enfin, voilà, quoi.
C'est un peu trop old school, quoi.
Voilà. Il y a des trucs intéressants, comme par exemple, tu sais, ils ont un porte-parole à la Steve Jobs qui fait des espèces de speech dans des pubs où ils expliquent ce qu'ils font dans la société, etc. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que il y a le côté, tu sais, bon, évidemment, vous en doutez, hein, vous bossez pour Evil Corp, hein. C'est la société qui a l'air très gentille en vrai, mais en fait, c'est des gros connards, voilà. Classique, j'ai envie de dire. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté où comment ils utilisent la communication pour masquer toutes les saloperies qu'ils font, quoi, entre guillemets. Le problème, c'est que derrière, c'est que des décors industriels où on te raconte pas grand chose dedans. Et ça, ça a été mon gros regret dessus. Voilà.
Ouais.
Pixel, est-ce que tu as des questions par rapport au jeu?
Oui, au niveau de l'optimisation.
Nickel. C'est super fluide, ça tourne dans des très bonnes résolutions. Je dis ça aussi par rapport à la vidéo que Digital Foundry a fait dessus. Apparemment, c'est un des jeux les plus optimisés qui est sorti cette année pour le moment. Ah oui, et pour terminer... C'est un jeu quand même où tu sens que il y a encore des choses qu'ils maîtrisent pas dans la formule Dark Souls. C'est-à-dire que Dark Souls, quand même, Pixel, tu en témoigneras, quand tu tombes sur un piège, la fois suivante, quand tu tombes dessus, tu vas l'éviter.
Ouais.
The Surge, quand on te met un piège, tu sais que tu vas te le prendre dans la gueule et que tu pourras rien y faire. Je vais prendre un exemple. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, hein. J'exagère un peu, mais il y a des cas qui m'ont fortement agacé. Par exemple, il y a un niveau, à un moment donné, tu prends une échelle. Enfin, c'est pas des échelles, c'est des espèces de trucs où tu t'accroches et c'est des espèces de tyroliennes, si tu veux, qui te tirent en haut, quoi. Et en fait, une fois que tu arrives en haut, t'as Nick qui t'attend, qui est là, qui a une des armes du jeu qui déstabilise ton personnage, quoi, on va dire. Tu le prends dans la gueule. Alors, tu peux essayer de te protéger. Le problème, c'est que comme son arme, elle te déstabilise, bah, ton perso est déstabilisé. Et derrière, il t'enchaîne. Voilà. Un autre reproche que je ferais, ils ont fait un système de maîtrise dans leur jeu. C'est-à-dire que, contrairement à Souls où t'as plein d'armes dans les Souls. Et pour chaque arme, t'as des movesets différents, etc. Bon, pas toujours, mais ils essaient de varier en général. Le problème de The Surge, c'est que, en fait, t'as des familles d'armes. C'est-à-dire que t'as les armes à une main, t'as les bâtons, t'as les marteaux, etc. Globalement, il y a moins de variété d'armes que dans les Souls. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas vraiment un défaut. Là où ça devient un défaut, par contre, c'est que ils ont fait un système de maîtrise. C'est-à-dire que plus tu utilises une arme, plus tu la maîtrises, plus tu vas sortir des mouvements de ouf avec. Et le problème de ce système, c'est que c'est un système qui t'encourage pas du tout à expérimenter. Très rapidement, il va falloir que tu choisisses quel type d'arme tu apprécies. Parce que si tu changes d'arme en plein milieu du jeu, quoi, on va dire, bah tu vas galérer parce que tu maîtriseras moins cette arme que l'autre arme que tu as augmentée jusqu'au niveau 15 par exemple, où ton perso sort des mouvements d'ouf malade dessus, quoi. Voilà. Pixel, quelque chose à ajouter ou...
Est-ce qu'il y a plusieurs fins?
Non. Enfin, t'as une phrase qui change selon une action que tu fais, mais il y a pas plusieurs... De toute façon, honnêtement, le scénario dans The Surge, on s'en fout. Je veux dire, c'est Evil Corp qui fait des saloperies, voilà... la narration, bon, il y a quelques idées, mais très sincèrement, Ce jeu, je vous le dis tout de suite, vous allez pas y jouer pour... Enfin, moi, en tout cas, j'y joue pas pour son univers, ça c'est sûr, parce que je le trouve extrêmement générique. Même si j'aimais bien, tu sais, l'idée de faire un truc un peu industriel, etc., de la point de vue de la direction artistique, mais je trouve très plein, en fait. Et surtout, même d'un point de vue scénar, bon, déjà, la narration, je l'ai dit, elle est un peu à la rue, mais en plus, le scénario, franchement, quoi... Pour qui a lu des romans de science-fiction ou même des films, ou enfin, c'est pas très intéressant, quoi. Voilà. Bon, messieurs, on s'arrête pour cette semaine ou...
Yes.
Oui, oui.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
I love chaque fou.